Bonsoir Yann Kefelec. Nous sommes avec vous pour partir en mer, effectivement, dans La mer et au-delà, qui est sorti aux éditions Calman-Lévy. Et dans ce livre, vous faites une bio qui n'est pas une bio, qui en même temps est un hommage, qui est une lettre d'amour à Florence Artaud.
Je ne sais pas exactement ce que j'ai voulu faire, une bio. Je n'ai pas eu l'impression de faire une lettre d'amour non plus. Florence Artaud est une navigatrice, c'est une femme que j'ai eu la chance de connaître, dont je dis bien qu'elle n'était ni mon amante ni mon amie, mais que je l'ai admirée, suffisamment connue pour éprouver le besoin vital d'écrire sur elle lorsqu'elle a disparu dans des conditions insupportables. J'ai eu le sentiment d'une grande injustice à son égard, qui d'ailleurs n'est toujours pas réparée, ou plutôt assez mal réparée. C'est-à-dire, à la fois, elle a été starifiée dans le monde entier lorsqu'elle a battu les meilleurs marins sur leur propre terrain de jeu, c'est-à-dire sur la mer, dans la course au large, et dans cette course qui avait été spécialement taillée par Olivier de Kersauzon pour lui assurer une sorte de primauté égale à celle de Tabarly dans le monde de la course au large. Et en fait, il ne l'a pas gagné. C'est Florence qui l'a gagné, ce qui a, dans des conditions ahurissantes, parce qu'on y reviendra, je pense, sur les conditions dans lesquelles elle a gagné cette course. Mais elle a vraiment montré qu'une femme pouvait être l'égale des meilleurs marins sur l'eau, et que, voilà, muscle ou pas muscle, le sens marin, le génie féminin appliqué à la mer pouvait faire la différence avec celui des loups de mer. Conscient, donc éprouvant un sentiment d'injustice à son égard, j'ai tout de suite eu envie d'écrire pour elle, pour dire à quel point c'était une personne remarquable, à la fois en tant que navigatrice, mais tout simplement en tant qu'être humain. Alors je me la suis un peu appropriée en écrivant sur elle, c'est normal de la part d'un écrivain, quoi. C'est pas qu'il s'identifie systématiquement à son personnage, enfin il le fait lorsque dans le cadre d'un roman, et je l'ai peut-être un tout petit peu fait d'ailleurs de manière romanesque dans cet ouvrage sur Florence, mais pour bien éprouver ce qu'elle a éprouvé, j'ai essayé de me rapprocher au maximum d'elle, de ce qu'elle avait ressenti, de ce qu'elle avait pu regretter, de ce qu'il avait frustré, de ce qu'il avait attristé lorsque dans cette espèce de course à la mer et de course à l'absolu sur l'océan, dans un monde qui ne voulait absolument pas d'elle, un monde extrêmement masculin, encore plus macho que celui des machos à terre. Mais on ne voulait pas de Florence Artaud, tout en la trouvant extrêmement agréable à regarder.
Oui, c'est ça, vous dites, la mer, c'est un espace masculin. C'est encore le cas ?
Bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire, évidemment, il y a des femmes qui, de plus en plus, brillent sur mer. Hein. C'est d'ailleurs formidable. Hein. Elles sont plus que les bienvenues. Et la Marine nationale, aujourd'hui, a des marins femmes. On peut pas dire des marines, c'est ça le problème. C'est dire à quel point d'ailleurs ce monde est un peu très masculin. C'est on dira marin, mais une marine, c'est impossible. Donc on dit un marin femme.
Mais pour vous, ça reste un domaine masculin.
Ça reste un domaine où l'homme aime bien avoir du muscle. Traditionnellement, c'est un domaine masculin. C'est un monde effectivement qui a été. C'est un monde d'hommes. C'est un monde de lutte physique avec les éléments. La femme est à terre avec la famille. Elle élève les enfants et l'homme va sur mer se battre. Avec la dureté comme ça des éléments pour essayer d'en tirer des revenus pour la tribu. Oui, c'est la marine, même ici, quand on ne parle pas du monde de la pêche, la marine nationale, c'était un monde, ce sont les hommes qui se battaient sur mer. Enfin, l'homme a toujours considéré comme ça que le loup de mer, c'était lui, et que la louve de mer, c'était une sorte d'ovni, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui.
Ouais, Florence Artaud, elle n'a pas un petit peu ouvert la porte justement à cette nouvelle génération qui contredit un petit peu ce cliché ?
Si, mais alors elle ne voulait pas le faire. Justement, c'est ça que j'admire chez Florence, c'est qu'elle ne voulait pas le faire en tant que femme. Elle n'était pas particulièrement féministe. Elle adorait les machos. Florence, elle l'a prouvé toute sa vie. Elle-même, d'ailleurs, était un peu macho-femme. Faut pas se faire d'illusions sur la personne. Elle ne s'est jamais laissée récupérer par les mouvements féministes. Elle a jamais dit « nous, les femmes, nous, ceci ». Pas du tout. Simplement, elle était quand même absolument désolée de voir que parce qu'elle était une femme, les mécènes lui refusaient des fonds qu'il n'hésitait pas à consacrer aux messieurs pour leur bâtir de magnifiques voiliers, on se moquait volontiers d'elle et de ses ambitions nautiques lorsqu'elle n'avait pas encore gagné. Enfin, la presse ne cessait de faire des gorges chaudes. C'était un gag, Florence Artaud. On disait qu'elle n'allait pas trouver le port à l'arrivée, qu'elle allait rentrer au port à peine serait-elle sortie, qu'elle faisait ça pour attirer l'attention des médias et être bien sur la photo. Enfin, que c'était son père qui lui finançait ses bateaux, ce qui est totalement faux. Mais comme les mécènes ne lui donnaient pas d'argent, elle était bien obligée quand même de recourir à des fonds privés et un peu de fonds familiaux, c'est vrai, en certaines occasions.
Parce que dans votre livre, on rentre vraiment dans la difficulté d'être un marin, parce que, comme vous le racontez, c'est aussi trouver un sponsor, c'est aussi ne pas avoir peur, alors ça, on l'imagine bien, hein, d'être seul en mer, mais parfois de vraiment pas avoir un centime sur soi, parfois de faire face à des imprévus qui sont alors bien détaillés dans votre livre, parce que vous partagez cette passion aussi avec elle quand même.
Bien sûr, mais ça, évidemment, je partage cette passion avec elle. Mais je ne peux pas dire que je n'arrive pas à la cheville de Florence Artaud sur la mer. On ne se rend pas compte lorsqu'on est terrien ou lorsqu'on est simplement plaisancier, même de bon niveau, comme moi. Je suis un plaisancier de bon niveau. J'ai voulu faire le tour du monde en voilier. J'ai eu je ne sais pas combien de bateaux dans ma vie, de voiliers habitables. J'ai bourlingué, il n'y a pas de doute. Mais la course au large, c'est encore autre chose. La course au large, la course en solitaire et la course sur ces monstres que sont les multicoques. Alors, elle, son multicoque, le Pierre Ier, était particulièrement difficile à mener, à piloter, on ne sait même pas comment dire, dans le gros temps particulièrement. Et lorsqu'elle a gagné la course du Rhum, la route du Rhum, elle a dû traverser 5 dépressions, c'est-à-dire affronter 5 fois l'enfer. Parce que la mer, il n'y a aucun doute, lorsque ça se passe mal, lorsque ça se gâte, c'est l'enfer.
Donc ça veut dire flirter avec le danger, il faut une personnalité particulière quand même.
Personnalité particulière, chacun flirte à sa manière avec le danger. Il n'y a pas que le danger sur mer. Mais c'est vrai que c'est un monde extrêmement particulier dont il est particulièrement difficile de parler. On ne peut absolument pas dire lorsqu'on est à terre, lorsqu'on a le sol comme ça à peu près stable sous les pieds, on ne peut absolument pas dire ce qui se passe sur l'eau, ce qui se passe à la fois sous les pieds, ce qui se passe autour du bateau et ce qui se passe dans la tête de l'individu. La peur peut s'emparer de lui, la solitude peut s'emparer de lui, le doute peut s'emparer de lui. La folie peut s'emparer de lui. Lorsqu'on n'a pas dormi pendant 4 jours de suite, on a des hallucinations. Hein. À mon humble échelle, je me rappelle avoir la nuit, je m'amusais à installer sur la vergue de la grand voile, là, sur la baume. Tous mes grands-parents disparus, mes arrière-grands-tantes, ils s'asseyaient, ils étaient là, puis je parlais avec eux. Mais franchement, ils étaient incarnés. Je ne me disais pas du tout, c'est une hallucination. Et pendant ce temps-là, je tenais le cap en même temps. Hein, et il y avait du grand vent. Et de temps en temps, il y avait un magnifique chien à roues qui passait par-dessus le bateau en me faisant un grand sourire. Hein, et puis ma grand-mère lui faisait un signe aussi. Et c'est absolument banal ce que je raconte. Tous les marins vivent cette expérience lorsqu'à force comme ça de traverser la mer et de peu dormir, eh bien le manque de sommeil se traduit par des hallucinations d'ailleurs fort agréables. Il faut faire même très attention à ne pas être tenté d'enjamber la filière pour aller récupérer un objet comme ça qui n'a rien à faire sur l'eau, que vous voyez, qui n'existe pas bien entendu. Faire attention à ça.
Florence Artaud, vous le racontez, mais on découvre cet accident quand elle a 17 ans qui va laisser des traces et qui vraisemblablement lui donne vraiment envie de vivre. On découvre aussi, plus en détail encore qu'on le savait, le moment où elle a failli mourir en mer.
Ce qui est extraordinaire avec elle, c'est avec Florence, c'est que toute sa vie a été marquée par l'accident. Avant même d'avoir son accident de voiture adolescente, à bord d'une voiture plus ou moins empruntée par son petit copain à son père. Déjà, elle avait l'habitude d'avoir des accidents de bicyclette, de mobylette. Sa mère recevait des coups de téléphone de l'infirmerie parce qu'elle s'était battue en classe et qu'il fallait venir voir ce qui s'était passé, ou bien parce qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital parce qu'elle avait fait une chute de mobylette ou de bicyclette. Enfin, c'est quelqu'un qui ne cessait de se faire mal, Florence. Et ça inquiétait d'ailleurs sa famille, ce besoin qu'elle allait comme ça d'aller au contact, parce qu'elle voulait être l'égale des hommes. Pas du tout en tant que fille, mais simplement en tant qu'individu. Elle voulait se battre avec les hommes, elle voulait jouer au foot quand ils jouaient au foot, elle voulait monter à cheval quand ils montaient à cheval, et elle n'arrêtait pas de se blesser. Et elle a eu cet accident absolument épouvantable qui a failli faire d'elle la grande sportive qu'elle était, remarquable en équitation, remarquable en ski, danseuse extraordinaire. Enfin, elle était extrêmement douée pour le sport. Ça a failli faire d'elle une sorte de légume. D'ailleurs, on lui avait dit, les médecins lui avaient dit, à Garches, c'est terminé, vous ne danserez plus, vous ne jouerez plus au tennis, vous ne ferez plus rien. C'était une fille de bonne famille, hein, il faut bien le dire, très snob, très Marie Chantal, ils avaient beaucoup d'argent, donc tout ce qu'elle voulait faire, elle pouvait le faire. Sauf que là, après son accident, là, dans la voiture volée avec son petit copain, ils étaient tous les deux complètement ivres et probablement totalement responsables de l'accident. Après ça, terminé, elle ne pouvait plus rien faire du tout. Donc on l'a réparé à Garches dans l'hôpital que j'appelle au pavillon des morceaux manquants là, pendant un certain nombre de mois, au bout desquels le médecin lui a dit « Mademoiselle, désolé, mais voilà ». Voilà, c'est fini pour vous. C'est la chaise roulante. Et la chaise roulante, Florence, la...
La chaise roulante a gagné la course du...
La chaise roulante a gagné la route du Rhum.
Oui, c'est ça.
La chaise roulante a gagné la route du Rhum. Florence a fini par dire à son médecin, un ou deux ans plus tard, je crois, bon, et est-ce que, vous voyez, je vais bien, je ne vais plus en boîte, je ne sors plus la nuit, je ne danse plus, je ne fais plus rien. Est-ce que vous croyez que la mère, j'y ai droit ? Et il n'a pas compris ce que ça voulait dire. La mère, j'y ai droit. Il lui a dit, écoutez, la mère. Évidemment, bien sûr, vous avez droit à la mère. Il s'est dit, j'ai droit à la mère. Donc, c'est là qu'elle a commencé à refaire du voilier.
Quand on vous écoute et quand on vous dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de Françoise Sagan dans cette histoire.
C'était une grande copine, Françoise Sagan. J'adorais Françoise Sagan. Elle aussi, une grande féministe, mais qui n'était pas féministe du tout et qui adorait les hommes tels qu'ils étaient. Enfin, c'était une sacrée bonne femme, Françoise Sagan. Libre aussi. C'est vrai, il y a quelque chose de Françoise Sagan. Je pense qu'elle se serait magnifiquement entendue. Je ne pense pas qu'elle se soit connue, mais ça ne serait pas tout à fait impossible qu'elle se soit rencontrée, Françoise et Florence. Il y avait cette espèce de liberté comme ça, de liberté d'esprit qui était magnifique et qui les rendait très agréables d'ailleurs dans le contact et dans l'échange. Cette espèce de grande intelligence spontanée de la vie, sans préjugés, sans a priori, sans volonté de jugement, sans aucune malveillance, mais accompagnée quand même de cette condition sine qua non, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et Françoise comme Florence, a été très accidentée par la vie. Et en même temps, elle a vécu la vie qu'elle a toujours eu envie de vivre.
Oui, mais il y a ce côté, comme ça, vivre aussi à vive allure.
Vivre au risque de se perdre.
C'est ça. Et puis, vous dites, c'est assez joli, de Florence Artaud, vous dites finalement un mélange de modestie et d'ambition.
Oui, mais c'était effectivement l'ambition, c'est-à-dire elle était persuadée qu'elle avait une sorte de rendez-vous avec l'absolu sur la mer. Elle en était convaincue, donc rien ne pouvait la détourner de cet objectif. Ce qui, encore une fois, ne l'empêchait pas d'avoir un petit accent 16e arrondissement, d'être extrêmement coquette, d'aimer se maquiller. À la fois, elle pouvait faire le coup de poing dans un bar à 3h du matin, et puis à 10h du matin, elle était complètement intimidée, presque suçant son pouce. Enfin, s'il y avait un mélange de petite fille à maman et à papa, et puis de baroudeuse incorrigible.
Vous racontez votre rencontre avec elle. C'est une scène qui est assez longue et à la fois très rigolote et en même temps très émouvante, parce que vous dites que finalement, cette gamine avec ses nattes ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, on a l'impression que petit à petit, elle vous parle et que tout d'un coup, s'anime quelque chose d'assez fort.
Ce n'est pas du tout à mon avantage les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Florence Artaud. C'était juste après que j'ai eu le prix Goncourt. Et j'avais l'impression que voilà, j'étais plus célèbre que le pape, que le président de la République. Je ne peux pas croire. Non, mais c'est vrai, on est bizarre quand on a, le... J'en ai connu d'autres, des prix Goncourt comme ça. C'est très curieux. Pour un, comme... Et alors à un moment, donc, voulant me retrancher de ce monde comme ça, de paillettes et de médias, j'habitais sur mon voilier du côté de la Corse. Et bien entendu, lorsque vous avez un beau voilier, que c'est l'été, vous avez des petites nanas de demande qui vont venir comme ça décorer votre navire le temps que vous les accepterez comme décoratrices à bord du bateau. Donc, il y en avait une qui était là, je ne sais même plus quel était son prénom, vous voyez, et qui se destinait à la coiffure. Et c'était formidable. Et un soir, sur le port d'Ajaccio, cette personne qui veut devenir coiffeuse me dit, tu vois, sur le bateau d'à côté, c'est Franck Provost, l'inventeur du brushing arasé, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était que le brushing arasé. Et ah bon, Franck Provost, je ne sais même pas qui était Franck Provost. Elle me dit, tu vois, ce qui serait bien pour ma carrière, ce serait que tu l'invites à boire un verre avec nous sur le bateau. Je dis, que cela ne tienne, je vais inviter Franck Provost. Donc je vais trouver le monsieur en question qui est avec une petite personne nattée, un peu boutonneuse, pas très jolie, très rouge comme ça, en qui je ne reconnais absolument pas Florence Artaud. Et je suis un peu dépité parce que lorsque Franck Provost et sa copine viennent à bord de mon bateau, aucun ne me dit « Ah mais vous êtes Yann Kefelec, mais c'est extraordinaire, vous êtes le prix Goncourt !» Pas du tout. Donc je suis un tout petit peu déconcerté par ça. Donc je ne m'intéresse pas davantage que ça à mon Franck Provost et à sa copine. On parle, on bavarde, on picole. Et puis finalement, on décide d'aller chercher des oursins dans une petite île à côté, à Gargalu. On y va. Et c'est là que les choses vont évoluer. Parce que moi, je fais une sieste et Franck Provost fait une sieste aussi. Et quand je me réveille, il fait nuit et le bateau est en train de rentrer à Ajaccio. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'il rentre à Ajaccio? Comment a-t-il pu hisser l'ancre tout seul? C'est quand même pas la coiffeuse qui a hissé l'ancre. Enfin, je suis un peu déconcerté. Et là, je vois ma petite nattée, là, rouge, à la barre de mon bateau, tout à fait tranquille. Je vais bavarder avec elle. Hein, et je comprends pas très bien. Et tout en parlant, je lui dis, mais alors vous faites quoi dans la vie? Elle me dit, oh, bah, en ce moment, je ne fais pas grand-chose, hein, me dit-elle. Je fais pas grand-chose, mais vous faites un peu de voile? Oui, je fais de la voile, me dit-elle. Elle vient de gagner la route du Rhum. Puis elle me dit qu'elle fait du ski. Je lui dis, bah oui, moi aussi, je fais du ski. Puis je commence à dire, moi aussi, je fais du ski, mais je suis plutôt voile, vous voyez. Puis j'espère que là, elle va se rendre compte quand même qu'elle est sur un voilier de 15 mètres, hein, dont je suis l'éminent skipper. Et voilà, on rentre comme ça au port, et arrivé au port, il y a une équipe de télévision à 3h du matin qui nous attend sur le quai. Je me dis, oh là là, ça y est, ils m'ont retrouvé. Pas possible, on ne peut pas être tranquille, décidément. C'est... Aïe, 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 aïe. Bon, ben, il va encore falloir que je réponde à des questions. J'amarre le bateau, l'équipe de télévision m'écarte tout en embarquant, et je me dis, mais vous voulez... Ah non, c'est de... Je me dis, ils viennent pour un coiffeur, pour Franck Provost? N'importe quoi. Et je vais me coucher. Hein, le lendemain matin, il n'y a plus personne à bord. Ma coiffeuse est sûrement quelque part par là. Il n'y a plus personne à bord. Je vais prendre mon petit déjeuner sur le port d'Ajaccio. Et là, par-dessus l'épaule d'un touriste allemand, je vois Corse Matin, je vois à la une, je vois mes deux invités de la veille et je lis Pierre Bachelet et Florence Artaud en escale sur le port d'Ajaccio. Donc, Franck Provost, c'était le chanteur Pierre Bachelet, qui était là. Et Florence, et la petite nattée, c'était Florence Artaud. Voilà comment j'ai fait la connaissance de Florence. On s'est retrouvés après. On s'est tous retrouvés, d'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. On s'est tous retrouvés. J'ai écrit un album de chansons pour Pierre Bachelet. Et puis, j'ai retrouvé Florence. Et on s'est rappelé, on s'est rappelé cet épisode. Alors, garder un souvenir comme ça, un brave petit souvenir, ça n'avait pas particulièrement bouleversé tout ça.
Mais il est tendre ce passage et on voit bien le rapport que vous avez avec elle du coup. Puisque vous avez cette façon rigolote et joyeuse de raconter cet épisode dans lequel, comme vous le dites, vous n'êtes pas à votre avantage. Mais ça va créer un lien assez fort finalement entre vous parce que ce n'est pas la première fois que vous allez rigoler.
Non, ça crée un lien indéfectible, c'est sûr. Chaque fois qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est revu, voilà, il y avait une espèce d'intimité qui ne reposait sur rien, comme ça, qui renaissait immédiatement entre nous. Et Florence, qui était une sacrée lectrice, qui adorait la littérature, fille d'éditeur, hein, fille de Jacques Artaud, donc le immense éditeur, Florence, voulait absolument qu'on fasse un livre ensemble. Et alors là, quand même, j'avais la présence d'esprit, la lucidité de considérer qu'elle n'avait absolument pas besoin de moi pour écrire. Voilà, elle avait son expérience des choses, son expérience de la mer, sa propre histoire à raconter, qu'un ouvrage à quatre mains n'aurait rimé à rien. Et d'ailleurs, je ne vois absolument pas ce que j'aurais pu écrire à côté d'elle. Mais quand même, on en parlait, elle me demandait d'y réfléchir. Et régulièrement, comme ça, la vie nous a rapprochés. Lorsqu'elle a écrit ses premiers livres, elle est allée les écrire à Molène, à l'hôtel Castel Andol, à la chambre 10, où mon père, Henri Kefelec, écrivain lui aussi, avait écrit des bouquins, où moi, j'avais écrit un livre sur mon père, et où elle avait écrit tout ça par hasard. Donc c'est assez curieux. Donc c'est certain, quand elle a disparu, je me suis senti tout de même assez proche d'elle, et parfaitement dans mon rôle d'écrivain en écrivant sur elle.
Vous racontez dans votre livre, c'est émouvant aussi, que quand vous apprenez sa disparition en regardant la télé, votre premier réflexe est de prendre un papier, un crayon et de noter. Ces notes, elles sont dans votre livre et elles sont très émouvantes, ces notes. C'est-à-dire que la première chose qui vous vient, c'est l'écriture.
Ouais, j'ai un sentiment de frustration et de grand ratage à tous les niveaux. Je me dis, mais elle a raté sa vie, cette pauvre Florence. À la fois, elle l'a réussi, elle l'a raté. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir les yeux bandés dans un hélicoptère qui s'écrase lorsqu'on est une navigatrice comme elle l'était, lorsqu'on se pense encore destinée à la mer? Il y a de grandes prouesses océaniques. Donc j'ai trouvé cette mort absurde, désolante, et je me suis dit, mais finalement, j'aurais dû faire un bouquin avec elle, on aurait dû essayer de faire un livre, n'importe quoi. Et j'ai essayé de faire le livre immédiatement. Donc j'ai eu, effectivement, je ne sais plus sur quel sac en papier qui traînait, j'ai jeté des notes, des espèces de phrases qui n'ont ni queue ni tête, pour lui dire à quel point je trouvais ça dommage. Et je suis reparti ensuite de ces quelques notes pour imaginer une écriture. Mais je voulais aussi que ce soit une belle écriture. Je voulais pas. Je me suis dit, voilà, je lui dois ça. Non seulement j'ai envie de parler d'elle, mais j'ai envie d'en parler d'une manière comme ça qui sonnera bien dans l'oreille de ceux qui liront ce livre et qui auraient bien sonné dans son oreille à elle. D'où l'importance, en effet, de l'écriture. On ne se contente pas d'écrire sur quelqu'un pour raconter des histoires à son sujet, pour raconter des anecdotes, mais aussi pour faire chanter comme ça l'histoire d'une certaine manière bien particulière. Voilà, il a fallu inventer une écriture.
Votre écriture est très nerveuse, très forte. Il y a quelque chose d'assez saccadé. Vous êtes en colère contre elle d'être partie comme ça ?
J'étais non, mais c'est vrai que j'étais pas en colère contre elle. J'étais pas certainement pas contre elle. Je n'en reviens pas de la manière dont elle s'est battue toute sa vie contre tout. Même contre l'argent, alors qu'elle était la fille comme ça d'une famille française particulièrement aisée. Elle s'est retrouvée du côté de Tahiti à un certain moment de sa vie, clochardisée comme ça parce qu'elle n'avait plus rien, parce qu'elle ne voulait pas se tourner vers sa famille, elle ne voulait pas qu'on puisse dire d'elle qu'elle se faisait entretenir. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'elle, quand même, il y avait toujours le bon billet d'avion pour être à Paris. Ça, d'où elle sortait son billet d'avion, ça, je ne sais pas. Alors peut-être que sa mère alimentait quand même sa carte bleue pour qu'elle puisse se payer le billet de retour. C'est pas impossible, parce qu'elle a une complicité absolument extraordinaire avec sa mère, comme ça, femme pied noir, elle a un sens de la famille extrêmement fort, qui refusait comme ça les brouilles apparentes entre sa fille et puis le reste du milieu, et qui voulait quand même sauver sa gamine, quelles que soient comme ça les mauvaises circonstances où elle se retrouvait au bout du monde. Mais il n'y a pas de doute, elle s'est retrouvée clocharde, elle a même été obligée de voler sa nourriture comme ça à l'étal des magasins pour s'en sortir. Donc je trouve son parcours bouleversant et pas reconnu à sa juste valeur. Quand on parle de Florence Artaud, On a l'idée d'une championne comme ça qui a gagné à un certain moment de sa vie, mais on ne voit pas que au personnage de cette championne est accroché à un autre personnage comme ça qui est celui d'un extraordinaire être humain qui a bâti une très très belle histoire, une magnifique histoire, comme a pu le faire Tabarly à sa manière, dont elle s'estimait d'ailleurs, elle estimait être la fille spirituelle, elle voulait lui ressembler.
Parce que, alors on va le préciser quand même, elle a les yeux bandés dans un hélicoptère quand elle meurt, puisqu'elle participe à un jeu en fait, avec d'autres grands sportifs, et donc ils seront trois à mourir dans cet accident d'hélicoptère. Vous dites d'elle que vous partagez les mêmes démons, c'est lesquels ?
Je pense que le seul démon qu'on partage, mais simplement il peut brusquement se subdiviser, c'est le... Il ne faut pas toucher à notre liberté, quoi. C'est tout. Hein. On fait ce qu'on veut, hein. C'est tout. Hein. Dans la mesure où on ne dérange pas les autres... J'ai toujours adoré ça chez elle. Elle a fait ce qu'elle a voulu, envers et contre toutes les décisions familiales. Ses parents voulaient qu'elle soit c'était une bonne famille bien rangée. Comme tous parents, ils voulaient que la petite réussisse en classe. Elle réussissait pas mal, mais elle s'en fichait, je suis désolé, c'est pas l'émotion.
Et en même temps, alors il y a le contexte familial, ça c'est une chose, mais il y a aussi l'époque, puisque vous dites, les années 76, c'est aussi les années Bardot, c'est aussi une grande insouciance, c'est aussi une façon de vivre.
Oui, c'est ça, mais justement, sa façon de vivre dérangeait profondément son milieu familial. Elle faisait le mur, elle sortait la nuit. Encore une fois, elle est sortie avec un petit copain dans une voiture volée. Ils ont eu un accident absolument monstrueux. Elle n'a cessé comme ça de dire non à son père, qui voulait qu'elle soit médecin, qui voulait qu'elle fasse de bonnes études, qu'elle se marie, qu'elle fasse un beau mariage. D'ailleurs, il y avait des fiancés qui avait été plus ou moins choisi pour elle, qu'elle a tous envoyé promener. Elle a profondément dérangé sa famille par sa vie privée aussi. Elle avait un petit côté un peu scandaleux. Hein. D'ailleurs, son père, à un certain moment, lui a carrément demandé de changer de nom parce qu'il avait honte d'avoir pour fille quelqu'un dans le journal Libération disait un fiancé dans chaque port. Alors, un fiancé dans chaque port pour une fille, c'est pas terrible. Mais les mecs, pendant ce temps-là, ils en ont 15 dans chaque port. Et tout le monde trouve ça très bien. Trouve ça fait partie des... Voilà, le marin, lui, c'est un tombeur. Et c'est bien dans le paysage, ça, que ce soit un tombeur. Mais alors, quand c'est une gamine qui se contente d'avoir une vie... Pas d'ailleurs, si c'est pas vrai, elle n'était pas si... Elle n'avait pas une vie aussi dissolue que ça. Mais voilà, bon, voilà, elle avait des petits copains, il n'y a pas de doute.
Dans ce livre, vous parlez aussi d'un autre livre, qui est Moby Dick, et qui est un livre qui aura beaucoup accompagné Florence Artaud depuis son accident. Alors évidemment, ça m'a donné envie de relire, puisque vous en parlez tellement dans ce livre-là, qu'on a envie de relire Moby Dick. Et comment vous voyez cette association de Florence Artaud et de ce livre qu'il n'a jamais quitté ?
J'en sais rien. Vous voyez, je me suis toujours posé la question, moi aussi. Moby Dick, c'est à la fois un livre extraordinaire, extraordinaire quand on en parle. On en parle comme ça quand on revient sur le capitaine Ahab, sur la quête initiatique, du personnage dont j'ai oublié le nom qui dit mon nom c'est Spaned, c'est mon nom et c'est magnifique ça. Ismaël, mon nom je crois est Ismaël parce qu'en plus il n'est pas sûr que son nom soit Ismaël, j'adore. Mais il y a de longs passages où on s'ennuie dans Moby Dick parce qu'on est j'adore. Il y a de longs passages où on s'ennuie dans Moby Dick parce qu'on est dans l'élément marin et parce que l'élément marin c'est très ennuyeux, c'est extrêmement monotone. On n'arrête pas de dire que la mer c'est extraordinaire, que c'est beau, que c'est pas vrai, c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps extraordinaire. Quand on est en pleine mer, qu'on traverse un océan. Bon, on est dans du bleu comme ça qui change pas beaucoup, qui est un peu tout le temps le même. Hein, et on finit par confondre les jours et les jours, les nuits et les nuits. Et tout cela est d'une extraordinaire monotonie. Mais alors, mystérieusement, quand on revient à terre, la monotonie disparaît et il y a une sensation de magie qui s'empare du souvenir. Et il y a tout ça, effectivement, dans Moby Dick. Il y a à la fois cette monotonie et il y a en même temps cette quête philosophique absolument ahurissante. Et ces personnages particulièrement forts comme ça et puissants que l'on ne rencontre que sur la mer, qui sont extrêmement mutiques sur la mer, qui sont, ce sont des compagnons de monotonie. Et quand on y repense à l'arrivée, ben on s'aperçoit qu'on a vécu dans les ports avec eux. C'est Quique, comment il s'appelle l'Indien complètement dingue, le lanceur au harpon. Vous qui l'avez relu récemment, vous avez oublié aussi. Hein, parce qu'on l'oublie vite. Hein. C'est vrai. On a dormi dans des hôtels borgnes avec des espèces de loups de mer complètement dingues dont on savait pas d'où ils sortaient, qui avaient des hallucinations la nuit. Enfin, tout cela devient extraordinaire alors que lorsqu'on le vivait, c'était particulièrement lent et parfois pas très amusant. Moi, je me souviens effectivement quand je traversais l'Atlantique, je traversais plusieurs fois l'Atlantique. Il y a des moments où le temps disparaît. Alors, c'est vrai que dans l'esprit, il se passe des choses étonnantes, mais on n'en est pas conscient sur le moment. C'est après, quand on réécrit les choses, qu'on s'aperçoit qu'on a été visité par des souvenirs dont on n'avait plus aucune nouvelle, qu'on s'est complètement échappé de l'élément marin pour retourner dans une espèce de monde intérieur où on a vécu des choses tout à fait étonnantes. Enfin, c'est très, très curieux, c'est passionnant. Et il y a tout ça dans Moby Dick, ce mélange d'aventure intérieure, d'aventure extérieure, lié à ce personnage de baleine que le capitaine accable avec sa jambe d'ivoire veut absolument aller défier quelque part. Ça, c'est un livre magnifique.
Au fond, Yann Kefelec, il y a un parallèle entre le fait d'être en mer et d'écrire ces moments de grande solitude et de réflexion seule avec soi-même.
C'est extraordinaire d'écrire. Hein. On dit tout le temps que l'angoisse de la page blanche, l'angoisse de la page bleue existe aussi. C'est vrai, quand on est en mer, on a peur de la mer. Hein. Tout le temps, on a peur. C'est pas une peur comme ça qui fait claquer des dents, mais on est sur le qui-vive. Et lorsqu'on écrit, on est aussi constamment sur le qui-vive. On s'aperçoit que cette petite page blanche extrêmement limitée dans l'espace ne cesse de s'agrandir comme un océan et de repousser comme ça les limites de votre quête. Vous ne savez même pas jusqu'où, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de très, très grande solitude et qui est assez grisant, d'ailleurs, ce sentiment de solitude. Parce que vous vous séparez du monde pour le retrouver dans vos mondes intérieurs et dans vos mondes d'écriture et de musique des mots dans l'oreille, mais il n'empêche que c'est extrêmement... C'est pas égocentrique, mais c'est extrêmement, évidemment, coupé de la réalité concrète vers laquelle vous ne cessez de tendre dans votre écriture et que vous n'avez qu'une hâte, évidemment, c'est de lancer dans la vie lorsque vous aurez terminé votre livre. Il y a donc toute une, il y a une véritable, de même qu'il y a une convalescence lorsqu'on revient d'un grand voyage en mer, il y a aussi une convalescence lorsqu'on revient d'un grand voyage d'écriture à travers un livre dont on a trouvé le mot fin. Comme ça, on ne se réhabitue pas tout de suite à ses contemporains, même à sa famille. Je pense que c'est épuisant pour une femme de vivre à côté d'un écrivain qui est à la fois là et pas là, qui, quand il est là, fait surtout semblant d'être là, alors qu'en fait, il continue d'être travaillé par ses petits bourdonnements intérieurs et ses petits personnages qui lui causent et qui lui disent par ici, c'est chez nous que ça se passe.
Alors, il y a un autre point commun, finalement, quand on regarde bien cette petite fiancée de l'Atlantique. On lui donne un truc bien à elle. Son frère appelle ça le petit moteur, quelque chose qui ne s'explique pas. Dans l'écriture, il y a ça aussi, quand même, Yann Kefelec.
Des petits moteurs.
Exactement. Qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'il y a une magie, un concours, il y a quelque chose, c'est une combinaison du talent, mais du petit truc en plus quand même, non ?
Il faut faire extrêmement attention quand on parle d'écriture, parce que l'écriture est une divinité très particulière qui se venge dès qu'on a tendance à parler d'elle, et à parler d'elle comme si on savait qui elle était. En fait, tout cela...
C'est superstitieux, en fait.
Ah, mais totalement, particulièrement avec l'écriture. C'est-à-dire, on a beau écrire et réécrire et avoir comme ça quelques livres à son actif, c'est toujours extrêmement étrange le moment où on dévisse son stylo et on commence à noter des choses, à les écrire. Ça, à chaque fois, c'est une alchimie dont on ne sait pas très très bien ce qu'elle va donner, si on va en ressortir indemne, si on va en ressortir tout court, si ça sera mieux, moins bien, etc. Mais en même temps, c'est complètement passionnant, parce qu'il y a tout de même, à la longue, un petit... c'est pas un savoir-faire, c'est un sens critique, comme ça. Moi, je sais ce que je n'écrirai plus jamais comme je l'écrivais autrefois. Ce qui est déjà énorme. Donc j'ai acquis une certaine distance par rapport à ce que j'écris ou ce que je pourrais écrire, cédant à une facilité, cédant au plaisir comme ça de ce que je ne sais plus qui appelait la tentation du beau vers. Il y a la tentation de la belle phrase, la phrase qui sonne bien avec l'adjectif qui a l'air parfaitement adapté au substantif. Et en fait, si vous acceptez cette impression de perfection qui vous ravit sur le moment, vous avez l'impression qu'elle va ravir tout le monde, vous tuez aussi une petite maladresse qui finalement est beaucoup plus juste et beaucoup plus touchante et pour le lecteur et pour le personnage et pour la vérité du texte que vous êtes en train de mettre en place. Non, ce qui est bien, c'est qu'on finit quand même par être relativement juste par rapport à ses moyens d'écriture. Faut pas non plus. Et quand on est juste par rapport à ses moyens d'écriture, c'est là qu'on peut se dépasser, hein, parce qu'il faut toujours se dire qu'on va être meilleur la fois d'avant.
Mais là aussi, il y a un petit point commun avec les marins, parce que vous dites qu'ils sont superstitieux, les marins.
Ah oui, les marins sont superstitieux, oui, ils sont extrêmement superstitieux. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas... Vous pouvez pas, alors on peut le dire, mais si vous parlez de lapin sur un bateau, même celui qui n'est pas superstitieux va très mal le prendre. Si...
Et pourquoi ? Parce que vous parlez de ça dans votre livre. Pourquoi le lapin, c'est pas possible sur un bateau ?
Mais c'est une histoire... La superstition, c'est absurde, évidemment. C'est complètement absurde. Au départ, ça repose sur rien. Et ensuite, ça devient quelque chose d'énorme. Quoi. Le lapin qui n'est rien au départ devient une espèce de monstre diabolique qui, forcément, peut mettre le navire en péril si on se permet de l'évoquer au cours d'une navigation et de braver l'interdit. Il ne faut surtout pas braver l'interdit du lapin. En fait, c'est quoi ? Le lapin, ben voilà, c'est un jour un bateau qui transportait des lapins. Et puis les lapins, ils avaient faim, ils ont rongé le fond du bateau, il a coulé, puis voilà. Puis l'idée que le lapin est un animal qu'il ne faut surtout pas associer à une navigation et rester à travers les siècles, et encore aujourd'hui. J'en parlais avec le capitaine d'un bateau, là. Je montre, c'est pas les murs que je montre, mais le port de... Le capitaine de l'Austral, là, c'est un bateau du Ponant, et qui me disait qu'il fallait surtout pas parler de l'animal aux longues oreilles, là, de l'animal.
Pourtant, c'est pas courant de croiser des lapins en mer. On peut pas dire.
Mais il n'est pas question de croiser des lapins en mer, mais c'est, quand vous parlez du lapin, c'est une vous attirez le mauvais sort du lapin sur le bateau, hein. C'est ça qui est grave.
Ce sera ma dernière question, Yann Kafelek, parce que ça passe vite. On a commencé cette conversation où vous disiez, finalement, Florence Artaud n'était ni ma maîtresse, ni mon amie, je ne sais pas très bien. Mais alors, en vous écoutant encore plus qu'en vous lisant, on a un petit peu la sensation qu'elle aurait pu être votre âme sœur.
Mon âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur ?
C'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, avec de qui on se sent très proche, avec qui on peut partager
Si, elle aurait pu être mon âme sœur, parce que je croise les doigts, parce que je n'ai pas envie de disparaître les yeux bandés dans un hélicoptère. Mais,
déjà, vous acceptiez un jeu à l'autre bout du monde.
J'ai failli quand même, moi aussi, j'ai échappé à des accidents absolument dingues. Et avec une certaine allégresse, de manière assez alerte d'ailleurs, et quand j'y repense, je n'en reviens pas comme je pense qu'elle n'en est pas revenue. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais plutôt vous raconter la sienne. Vous avez probablement tous en mémoire cette histoire comme ça, qui lorsqu'on y pense est une histoire impossible. C'est un miracle et on ne peut pas ne pas se dire que c'est un miracle. Et comme un miracle c'est quelque chose d'impossible, on se dit que ça n'est pas possible qu'elle ait vraiment vécu ça. C'est-à-dire la fois où elle tombe à la mer au large de la Corse, où elle se retrouve pour satisfaire un besoin naturel. Mais moi, je n'ai pas parlé de besoin naturel dans ce livre, parce que je trouve pas ça joli. J'imagine simplement qu'elle récupère une balancine comme ça à l'arrière du bateau et qu'elle tombe par-dessus bord. Là, elle voit son bateau qui part dans la nuit avec le chat qui miaule, le petit chat comme ça qu'elle a adopté sur un port algérien quelques jours plus tôt, en écoutant les informations comme ça, les nouvelles du soir qui s'éloignent. Et tout cela s'en va. Étant sur le bateau du pendant le jour de l'Austral, je repensais à ça en regardant la mer la nuit. Et si on tombe à l'eau, on est mort. Il n'y a pas de doute, on est mort. Personne ne viendra vous récupérer. Vous pouvez mettre à la mer toutes les chaloupes que vous voulez, on ne vous retrouvera pas. Vous êtes un point minuscule dans l'immensité au milieu des vagues. On n'a pas retrouvé Tabarly, on ne retrouve personne. Ça n'est pas vrai. Donc, Florence tombant à l'eau, solitaire, de son bateau, c'est pas le petit chat qui va venir la chercher, il n'est pas question qu'elle puisse s'en sortir. C'est fini. En plus, son téléphone portable, il n'est jamais sur elle. Il est dans son équipée, elle n'y pense même pas d'ailleurs. Et dans l'eau, bah, qu'est-ce qu'elle fait comme toute personne qui tombe à l'eau? Elle barbote, elle marine, et puis elle attend que la mort vienne lui dire « Bon voilà, maintenant il faut boire la tasse. » Elle attend. Au début, elle refuse de mourir. Elle pense à Tabarly, qui est mort comme ça. Elle s'est dit « Mais c'est pas possible, je ne vais pas mourir comme lui. » Et puis elle finit par accepter l'idée de la mort. Elle commence à devenir un peu dingue. Elle se voit, elle imagine ses narines comme de grandes cathédrales où elle peut se promener, comme ça, parce que l'eau commence à entrer comme ça dans sa tête. Et c'est à ce moment-là qu'en se déshabillant pour s'alléger, pour mettre la tête hors de l'eau, elle ressent la sensation d'un objet carré, et c'est un téléphone portable. Neuf, elle n'a pas le code PIN, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de batterie, ça marche. Elle appuie, elle a la voix de sa mère à Paris. Ben, ça s'est passé comme ça, on peut même pas l'avoir inventé, ça s'est passé, c'est arrivé. Hein, elle a la voix de sa mère à Paris, qui est femme extraordinaire. La pied noire, ancienne championne de voile à Alger, là, qui lui dit pas « Oh, ma pauvre petite, qu'est-ce qui t'arrive ?» qui lui dit « Quelle est ta position ?» Première parole. C'est extraordinaire comme phrase. Ça, il faut vraiment être une sacrée maman pour dire ça. Et Florence lui dit « Voilà, je suis au large de la Corse, je sais pas exactement, je suis au large de la Corse. » Hein, du Cap Corse. Et puis, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Et là, maman, pendant ce temps-là, se débrouille pour entrer en contact avec le frère de Françoise, qui appelle les crosses de la côte du côté de Toulon. Et là, partout, on lui dit, monsieur, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Hein. C'est plus l'heure. Ils sont tous couchés alors qu'il est. Rappelez demain matin, monsieur. C'est vrai. Et il finit quand même par entrer en contact avec des marins-pompiers qui acceptent de partir en hélicoptère en disant « Mais c'est n'importe quoi, on va en hélicoptère au large de la Corse chercher un corps dans l'obscurité, c'est n'importe quoi. » C'est tellement n'importe quoi que le marin-pompier dans son hélicoptère, il arrive au large de la Corse, on lui a dit devant le Cap Corse, il fait des ronds, il ne voit rien que du noir. Il n'en peut plus. Et là, comme Florence, quelques mètres plus bas, lui aussi commence à devenir un peu dingue de fatigue. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit point rouge dans l'eau. Pas dans l'eau, dans le noir, à l'extérieur du truc. Et il se dit, c'est pas possible qu'on puisse fumer à côté de mon hélicoptère. C'est vous dire. Voilà. Et alors donc, il s'approche du petit point rouge, il ne sait pas très bien pourquoi. Et le petit point rouge devient un petit point blanc. C'est un effet d'optique, le petit point rouge. Le petit point rouge devient un petit point blanc. Et là, il se dit, mais c'est pas vrai, il y a une lampe qui est là. Et en fait, Florence est là sur son... Elle a toujours avec elle, la nuit, elle a toujours avec elle une lampe frontale qui continuait de balancer des petites lueurs comme ça. Elle n'en était même pas consciente. Hein. Et c'est ça qu'il aperçoit, le type. Au moment même où Florence est en train de se séparer de ses ravissantes petites bottes roses, parce qu'encore une fois, elle est très coquette, et même au moment de mourir, elle est désolée d'avoir acquitté ses bottes roses hein, pour voilà, s'alléger encore un tout petit peu plus. Et c'est à ce moment-là, comme ça, que de la façon la plus romantique, comme on pourrait le voir dans Angélique, marquise des anges du XXe siècle, eh bien, la main d'un marin-pompier perché sur une échelle de corde plonge dans la mer, attrape Florence par ses magnifiques cheveux roux, comme ça, la sort de l'eau, l'enlace. Et l'hélicoptère s'éloigne comme ça en tourbillonnant avec la... Ça s'est passé comme ça. Je suis désolé. Elle est sauvée comme ça. C'est pas incroyable. C'est pas un miracle. C'est un miracle.
C'est une héroïne de roman.
Ah oui, c'est une héroïne. Mais c'est inouï comme histoire. On peut pas le croire. Et on le croit encore moins si on ajoute qu'elle n'est pas plutôt arrivée à Bastia qu'elle repart pour aller récupérer son bateau et son chat. Parce qu'elle les retrouve, donc, franchement.
Je crois qu'on va s'arrêter sur cette histoire magnifique. Merci beaucoup, Yann Kefelec.
Merci beaucoup.